de Collonges commence en 1613, bien souvent on bloque vers 1700. On n'arrive pas à trouver les mariages de nos ancêtres, qui ont pourtant des noms bien de Collonges, qui s'appellent Colli, Andrieux, Sérac, Boutan, Ramade, des noms qu'on trouve encore. Et donc la seule explication possible, pourquoi on ne les trouve pas, dans les registres catholiques, ben c'est parce qu'ils n'étaient pas catholiques. Voilà. Et pourtant, des indices auraient dû nous mettre la puce à l'oreille. Parce que dans ces familles, encore au XVIIIe siècle, on trouve des prénoms particuliers. Et c'est des prénoms qu'on va trouver même jusqu'à la Révolution, quelquefois même au XIXe siècle. On va trouver des gens qui s'appellent Isaac, Abraham, Daniel, David, Judith, Rachel, Elisabeth, qui n'étaient pas des prénoms qui étaient communément donnés en Corée. Vous savez, c'était Léonard, Pierre, Antoine. Donc on tombe sur des prénoms comme ça. C'est des prénoms qui ont continué à être donnés dans ces familles par tradition, si on veut, par le biais des parrains et marraines. Donc ça m'est arrivé très souvent de dire à des gens, écoutez, si vous ne trouvez pas à Collonges, c'est peut-être que vos ancêtres étaient protestants. Alors là, j'ai perdu du temps, j'ai affaire à un tollé. Ah ouais, non. Certainement pas. Nous, on est catholiques, bien catholiques. Et j'avais l'impression que ça allait vexer un petit peu, voilà, d'avoir été protestant. Alors par contre, ce qui leur faisait assez plaisir, c'est l'argument diplomatique que je faisais entendre à chaque fois, c'est qu'en fait, les protestants, c'était l'élite. C'était l'élite intellectuelle du temps. Puisque non seulement bon, il parlait l'occitan comme tout le monde, je dirais, mais il parlait forcément le français, et il savait lire et écrire en principe le latin et le français. On verra pourquoi. Donc, en principe, les gens après, ils disent, oui, finalement, j'ai peut-être pas si mal. Mais c'est assez étonnant cette réaction, et Madame Guilla du pire, puisqu'un jour à Turenne, elle parlait d'une famille notable de Turenne en disant qu'ils étaient protestants, un monsieur s'est levé en disant, Madame, j'interdis qu'on insulte ma famille. Elle a dit, mais attendez, ça n'a jamais été une insulte d'être protestant. Et ça, c'est une chose qu'on va expliquer, parce que non seulement cette histoire a été liée, occultée, mais elle a été niée, carrément. Donc, beaucoup de gens ont beaucoup de mal à imaginer que, même si eux ont été élevés dans la religion catholique, ils avaient des ancêtres protestants. Moi, j'ai moi-même un ancêtre qui était pasteur. C'était ma grande surprise quand j'ai trouvé ça. Donc, on va se poser la question de savoir donc, pourquoi, justement, la mémoire régionale a occulté donc, cette présence importante dans le calvinisme en bas de nos uns. Donc, ça a duré un siècle et demi, on dirait, cette présence, à peu près. Hein. Des périodes agitées, des périodes plus calmes, on va voir ça. Tout se termine définitivement en 1685 avec la révocation des dix Nantes. Et à ce moment-là, l'histoire elle va être écrite, comme toujours, par les vainqueurs, si on veut, c'est-à-dire les catholiques. Donc les archives vont être détruites. Donc il y avait des registres protestants, même chose que les registres catholiques, les baptêmes, mariages, décès. Ils ont tous disparu, sauf un, celui d'Argentat, mais seulement de 1613 à 1637. Tous les autres registres protestants ont été probablement brûlés. Et puis un siècle plus tard, la Révolution va brûler également pas mal de documents, notamment à Collonges, où pendant plusieurs dimanches successifs, on a brûlé toutes les archives de Collonges. Voilà. On est parti du principe que les archives des notaires contenaient les titres féodaux et qu'il fallait s'en débarrasser. Et donc on a la liste de tout ce qui a été brûlé. Ça a été brûlé. Voilà. Donc ça a été oublié, même à Collonges. Ou alors ça a été dit d'une façon extrêmement éludée. Enfin bon. Par exemple, en 1850, un curé de Collonges qui s'appelait l'abbé Barrault a noté « La paroisse de Collonges, autant et beaucoup plus que plusieurs autres, a eu ses mouvements religieux, et les vicissitudes matérielles n'y ont pas manqué. Mais à défaut de documents précis qu'on a égarés, et que la tradition orale seule a conservé en partie seulement, voilà, donc, on ne sait rien, quoi. Il tourne autour du pot, quoi. Il ne dit pas du tout le mot protestant, réforme, voilà. Et donc, il faudra attendre, en fait, la fin du XIXe siècle, et entre autres, la création de notre société, hein, pour que des historiens se penchent sur cette période. Et c'est Madame Lely qui va vous en parler.
Donc, de la démarche. Alors, si ce truc veut bien marcher, ce qui n'est pas gagné, hop, pardon. Voilà, donc voilà un premier livre.
Bon, alors nous sommes donc en 1879, 9 ans après la guerre des 70, et surtout, l'avènement de la Troisième République. Et c'est une période que les catholiques considèrent comme une période assez sombre, parce que cette république, elle est d'après eux dirigée par des francs-maçons, des protestants et des juifs. Autrement dit, ils se sentent en danger, les catholiques. Ils se sentent en danger et pas mal de curés de l'époque, qui sont des érudits, vont essayer de contrarier un peu ce mouvement, cette république, en étudiant l'histoire sous un angle qui montre comme magnifique et très beau le Moyen-Âge, d'abord, qui a été ultra-catholique, ensuite l'épouvantable événement qui s'est passé au XVIe siècle, c'est-à-dire la Réforme, ensuite tous les dangers que les protestants ont fait courir aux catholiques, tous les pillages d'église et les massacres. Il passe très légèrement sur la Saint-Barthélemy, qui est, comme vous le savez, un massacre de catholiques par des protestants. Et bon, surtout, ils essayent d'expliquer aux gens que ces protestants ne sont pas du pays. Ça, c'est la thèse de l'abbé Marche. Alors, l'abbé Marche est un érudit corrézien, très connu, qui a étudié en monographie, c'est-à-dire en étudiant les paroisses où il a été prêtre, en particulier la paroisse du Sac. De ça, il parle très bien. Et puis, il s'attaque en 1879 carrément à l'histoire de la vicomté de Turenne. Et la moitié de son livre est consacrée à ce qu'il appelle l'invasion calviniste, c'est-à-dire que les protestants arrivant de je ne sais où, parce que ça, il n'explique pas d'où ils viennent, sont entrés en vicomté et ont commis épouvantables massacres un peu partout et ont été épouvantables aussi bien à Turenne qu'à Beaulieu, qu'à Argentat. Et voilà donc la thèse de l'abbé Marche. Nous sommes en 1879. Alors, l'archiviste de la Haute-Vienne, Alfred Leroux, qui était protestant, s'est senti piqué au vif, parce qu'il a trouvé que cette histoire n'était vraiment pas plus que trop catholique, si vous voulez, et pas assez objective. Donc, il a écrit une histoire de la Réforme dans la Marche et le Limousin, faite avec des éléments qu'il tirait des archives, et en particulier des archives d'Argentat, qui sont quand même en meilleur état que celles de Beaulieu ou celles de Turenne. Il a aussi étudié Saint-Céré, c'est en Quercy, mais ça faisait partie de la vicomté de Turenne, et il constate que la vicomté de Turenne était en majorité protestante. Les seules villes qui ne l'étaient pas, c'était la ville de Martel, parce qu'elle avait une sénéchaussée royale, et donc que la plupart des gens étaient employés au service du roi, le roi étant forcément catholique. L'autre ville également catholique, c'était Brive. Mais ce qu'il expliquait, et ce qui est d'ailleurs très net, c'est que lorsque la Réforme a commencé à Brive, comme il y a eu une persécution des protestants, ils sont allés se réfugier à Turenne. Et ce sont eux qui ont formé tout le groupe qui entourait les vicomtes, et qui étaient forcément des protestants s'étant enfuis de Brive. Alors ensuite, on passe à M. de Boisson. Alors nous sommes beaucoup plus tard. Nous sommes en 1918, si mes souvenirs sont bons. Ça, c'est un livre également à la gloire des catholiques, qui ne cache pas son titre. Cette fois, ce n'est pas l'histoire de la vicomté de Turenne, mais c'est carrément le titre du chapitre de la démarche, « Invasion calviniste en Limousin, Périgord, au Quercy ». Et M. de Boisson, qui était donc quelqu'un de très catholique, qui avait été assez furieux au moment de la séparation de l'Église et de l'État en 1903, s'est mis donc à écrire ce livre, qui est là encore donc une espèce de louange des catholiques et évidemment attaque très ferme des protestants. Donc vous voyez que pour l'instant on en est à deux contre un. Mais si vous voulez, Leroux est dans l'affaire le plus scientifique, parce que c'est un archiviste et il se sert uniquement, lui, des archives. Il ne se sert pas des traditions comme la démarche ou des choses comme ça, enfin des coutumes.
Après, vous êtes censé parler des protestants avant Henri de la Tour et pendant son règne.
Oui, oui. Alors, dans tous ces... Alors, c'est Calvin.
Voilà, Calvin, voilà.
Alors, Calvin, je pense que tout le monde le connaît. C'est lui, donc, qui est un peu le chef de file des catholiques, des protestants français. Il va à Genève, il se réfugie à Genève, il n'aura donc pas de problème particulier. Son culte, enfin, ce qu'il a organisé, et l'occupe majoritaire en France. En revanche, en Allemagne, c'est Luther, qui est peut-être un peu plus proche, Luther, des catholiques, au point de vue des cérémonies. Alors ici, vous avez une carte donc, de la Réforme. Elle s'est étendue petit à petit à partir de 1560, à peu près, un petit peu avant. On commençait à avoir des prêches dès 1530, et ces prêches protestants avaient lieu dans les villes qui sont le long de la Dordogne. Ça venait de Bordeaux, et puis ça remontait jusqu'à Argentat. Ça vous explique que plus tard, les villes de la Vicomté qui sont sur la Dordogne, comme Argentat, comme Beaulieu, s'insérer sur un affluent, c'est un petit peu le même principe, sont des villes qui ont été gagnées par le protestantisme. Voilà la Vicomté. Alors la Vicomté de Turenne va donc être protestante, en majorité, mais d'après Richard de Boisson et d'après l'abbé March, c'est devenu protestant donc à cause de gens qui sont venus d'ailleurs. Mais ils ne disent pas d'où ils sont venus. En fait, ce sont des gens tout simplement du pays. Seulement, ils vont aussi masquer un petit peu, rendre un peu étrange l'histoire de la Vicomté de Turenne. Ce qu'il faut savoir, c'est que les vicomtes de Turenne sont morts très jeunes, au début du XVIe siècle. Il y a eu trois vicomtes successifs, François I, François II et François III, et tous les trois sont morts pratiquement autour de la trentaine, à l'âge de 30 ans. Le dernier, François III, est mort à la bataille de Saint-Denis. Son fils Henri Ier de la Tour, qui sera donc le grand vicomte de Turenne à partir de cette date, il est né en 1555. Il est orphelin, donc, à l'âge de 2 ans. Sa mère meurt 2 ans plus tard, donc il est orphelin de père et de mère. Et il est élevé à Écouen, dans le château d'Écouen, qui est un château Renaissance, par son grand-père, qui est le connétable de Montmorency. Le connétable de Montmorency, c'est un très grand personnage. C'est presque le deuxième personnage de l'État. Bien entendu, c'est un ultra-catholique. Alors voilà Henri Ier quand il est beaucoup plus vieux. Mais retenez sa date de naissance, 1555. L'abbé March et M. de Boisson, et aussi bien d'autres historiens, vont l'accuser d'être le chef des protestants dès 1562. Vous avez calculé quel âge il a ? Il est né en 1555. Bon, est-ce qu'il peut être chef de protestants ? Non. Est-ce qu'il peut être dans sa vicomté ? Non. Il est à Écouen, ou alors il est à la cour de Catherine de Médicis, et il est un des amis des fils de Catherine de Médicis. C'est quelqu'un qui est à la cour. C'est seulement à l'âge de 20 ans, et nous sommes donc en 1575, qu'il va s'enfuir de la cour de Catherine de Médicis, parce qu'il trouve, depuis la Saint-Barthélemy, 1572, qu'on a affaire à des ultra-catholiques à la cour. Donc il s'en va. Lui, il fait partie de ce qu'on appelle le groupe des politiques, c'est-à-dire de ceux qui voulaient être ni protestants ni catholiques, et il se réfugie dans sa vicomté qu'il ne connaissait pas. Il a 20 ans. Vous pensez bien que ce jeune homme de 20 ans ne va pas transformer ses sujets en protestants. Au contraire, il les trouve protestants. Il dit, quand j'arrivais dans ma vicomté, je trouvais les gens de Turenne, de Beaulieu et d'Argentat protestants, ils ne me faisaient pas la guerre, ni aux catholiques. Autrement dit, il y avait un certain équilibre. Voyez. Nous sommes donc en 1575. Au bout de 2 ans, il se convertit au protestantisme, après avoir bien réfléchi, je ne veux pas dire que c'est une action brutale, et il va devenir le chef des protestants du sud-ouest. Comme la vicomté de Turenne est une clé de passage entre Paris et Toulouse, et une clé aussi du passage entre Bordeaux et l'Auvergne, il va avoir un rôle considérable. On peut dire que Henri de Navarre, qui est donc le champion des protestants, et qui sera le futur Henri IV, lui doit en grande partie sa couronne. Effectivement, il a été extraordinaire pendant toutes les guerres de religion, et il a été donc un des lieutenants les plus importants du vicomte d'Henri de Navarre. Alors, il épouse d'abord une demoiselle de la Marque, qui habite à Sedan, qui est donc
princesse de Sedan, et il va donc récupérer la citadelle de Sedan. Et également la principauté de Bouillon, qui est hors de la France. Il va donc devenir un prince, pas seulement français, mais étranger. C'est-à-dire qu'il aura sa libre circulation. Quand le roi le menace, il passe dans ces pays étrangers, où il se retrouve relativement confortable. Cette femme meurt sans enfant, et il se remarie avec Élisabeth de Nassau, voilà Élisabeth de Nassau, qui est la fille de Guillaume d'Orange. Guillaume d'Orange venait d'être assassiné par les catholiques, et donc c'est une protestante hyper convaincue. Tous les deux vont rester protestants jusqu'à leur mort. Alors lui en 1624, donc assez tard, et elle en 1642. Et ils seront parmi les protestants les plus notables de France. Ça vous explique que la vicomté de Turenne a pu être protestante à peu près sans problème, jusqu'à au moins 1642, la mort d'Élisabeth de Nassau. Alors après, son fils, Frédéric Maurice, se convertit au catholicisme, revient au catholicisme. À partir de ce moment-là, évidemment, les protestants en vicomté sont moins protégés. Mais enfin, il n'était pas véritablement hostile aux protestants.
Le gouverneur de la vicomté, les Vassignac.
Alors, nous arrivons à une famille pour qui monsieur de Boisson et l'abbé Marche ont une particulière hostilité. Cette famille, c'est la famille des Vassignac. Les Vassignac, ce sont les gouverneurs de la vicomté de Turenne. C'est-à-dire, ce sont les représentants du vicomte quand il n'est pas là. Alors, on nous explique que dans les deux cas, que ces Vassignac ont été convertis par Henri de la Tour quand il est rentré. Alors, on va voir que ce n'est pas très possible.
On voit les dates de naissance des enfants.
Vous allez voir leur date de naissance et vous allez voir...
On voit les prénoms aussi. On voit que du premier mariage, il y avait déjà un Daniel et un David. Or, c'est un premier mariage. Or, les enfants du deuxième mariage vont naître à partir de 1550, à peu près. Or, il faut savoir, donc, Luther, il vient juste de fêter les 500 ans. Là. Je ne sais pas si c'était en octobre, là. Il y a les 500 ans de la Réforme. C'était donc 31 octobre 1517, donc, que la Réforme commence. C'est en 1531 que Calvin se convertit lui-même. Or, on voit que les Vassignac n'ont pas tardé. C'est évident qu'ils ont été protestants de la première heure. Donc, voilà, ces prénoms, Daniel, premiers. David, Gédéon, Isaac, oui, on est vraiment dans une famille protestante.
Bien avant. Henri Ier rentre en vicomté. Bien avant. Ceci, là-bas, David et Daniel sont morts durant les guerres de religion dans les années 1572. Ils sont déjà morts à ce moment-là. Mais ils étaient déjà protestants, leurs parents aussi, déjà protestants. Et donc, lors du deuxième mariage, c'est pareil. Les Machat, Marguerite de Machat, la dame de Lasbaux, elle aussi, elle est protestante. Lorsque son mari sera fait prisonnier par les catholiques, Bernard de Bassignac, là-haut, c'est elle qui payera sa rançon avec la seigneurie de Lasbaux. Et donc, son fils aîné, Gédéon, c'est un contemporain de près d'Henri de la Tour. Il est protestant, évidemment, dès sa jeunesse, bien avant qu'Henri de la Tour rentre en vicomté. Donc déjà, vous voyez, on peut considérer que les Vassignac, comme beaucoup de seigneurs protestants, comme beaucoup de seigneurs d'ailleurs du Limousin, sont devenus protestants bien avant qu'ils rentrent. Il les a trouvés protestants, et donc ils ont été ensuite ses auxiliaires pendant les guerres qui ont suivi.
Donc, comme je vous ai dit, on n'a pas de registre protestant. On a un registre catholique donc, qui commence en 1613. J'avais déjà fait un article pour la revue sur ce registre, parce que l'abbé Durand, c'était pas un curé ordinaire, je dirais, hein, puisqu'à la fin de chaque année, il mettait mémoire de l'année écoulée. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de cet article, où il raconte les orages, les calamités, enfin tout ce qui peut se passer à Collonges. Et donc, ces registres, il faut quelquefois lire entre les lignes, parce que finalement, il parle aussi des protestants quand on arrive à comprendre ce qu'il écrit. Alors, par exemple, ici, vous avez une naissance. Alors, voilà ce qu'il y a écrit. Aujourd'hui, second jour du mois de novembre 1613, est né, je pense que je ne suis pas en face, donc Pierre Bourdary, fils de Pierre Bourdary, maréchal, et de Jeanne Delon, probablement de Delolme Delon, tous deux de la religion prétendue. Alors voilà comment on appelait les protestants. On les appelait ceux de la religion, ceux de la religion prétendue, ceux de la religion prétendue réformée ou ceux de la RPR,
la religion prétendue réformée. Voilà. Alors, donc, l'abbé Durand, voilà, qui va noter la naissance d'un protestant. C'est pas un baptême, hein. Il dit « est né un protestant ». Et il est né à Vassignac, vous voyez, maison de monsieur le gouverneur de Turenne. On pourrait se demander pourquoi. Pourquoi il note ça? Et il ne dit pas pourquoi il note ça. Il va comme ça, petit à petit, de temps en temps, noter des choses. Alors, par exemple, aujourd'hui, nous sommes... donc aujourd'hui, 18e jour du mois d'octobre 1637, est mort M. Eutrope Andrieux, procureur d'office de la juridiction de Collonges, à 11h, c'est très précis, du soir, et a été enseveli, je ne sais pas, le lendemain, le 11 du mois, donc mort de la religion prétendue réformée. Voilà. Donc il va noter quelques actes comme ça. Par exemple, le 3 mars 1629, il note la mort de Jean Bial, dit Jean de la Dauphine, du village du Monteil. Et là, c'est intéressant, il dit « et a été enseveli devant la grande porte de la chapelle Saint-Maximin, possédée par ceux de la religion prétendue. »
La chapelle Saint-Maximin, c'est la chapelle des pénitents. En couverture, c'est ce qu'ils appellent maintenant la chapelle des pénitents.
Alors, on voit qu'on va parler après des lieux de culte, mais là, on voit bien que cette chapelle, qui avait bien sûr été catholique, à ce moment-là, elle est aux mains des protestants. Alors, ce qu'on peut trouver aussi, c'est des actes de vrai baptême, si on veut, catholiques, mais où les parrains et marraines ont dû être remplacés parce qu'ils étaient de la religion prétendue. Donc, quelqu'un a tenu pour eux, comme il dit. Et donc, ça veut dire aussi qu'il y a des familles partagées. Et il y a des familles catholiques qui prennent pour parrains et marraines des protestants. Donc, c'est pas toujours très simple. Là, on a un acte intéressant. C'est le premier jour du mois de novembre 1618, et décéda Guillaume Sérac, dit Boucadet, du présent lieu. Et le même jour, partit Abraham Lavial pour s'en retourner à Bordeaux. Alors là, c'est un petit peu mystérieux, cette histoire. Donc, c'est pas un acte de décès de catholique, parce que les actes de décès de catholique, il y a toujours écrit « muni des sacrements, enseveli au cimetière ou dans l'église », enfin, des choses comme ça. Là, non. On voit bien que Guillaume Sérac, dit Loucadé, donc, était protestant. Et donc, l'abbé Durand prend la peine de noter, le même jour, partit Abraham Lavial pour s'en retourner à Bordeaux. Alors ça, c'est assez mystérieux. Si ce n'est qu'Abraham, c'est évidemment un prénom protestant. Le curé a eu besoin de se souvenir de cette date. C'était une date importante pour lui. Il allait donc à Bordeaux. Et qu'est-ce qui se passait à Bordeaux? Ben, c'était les jugements, les procès au Parlement de Bordeaux. Donc on peut penser, et après on en aura la preuve, qu'à ce moment-là, il y avait des différends entre les catholiques et les protestants et qu'il y avait un procès en cours au Parlement de Bordeaux. Donc il va noter, l'abbé Durand, alors je ne vous mets pas tous les actes, hein, il y en a qui ne sont pas très visibles, il va noter plusieurs homicides quand même. Par exemple, le 23 mai 1627 est décédé Jean Ramade, puiné fils de Jacques, a été tué au devant de la porte de Jean Andrieux après les vêpres d'un coup de pistolet. Et le 24 a été enseveli dans la chapelle Saint-Maximin, qui est dans le cimetière de Collonges, et le tout par force et volonté de ceux de la religion prétendue, nonobstant mon opposition. On n'a pas tous les tenants de cette affaire. Enfin, quelqu'un a été tué d'un coup de pistolet, après vêpres. Est-ce que c'est juste pour noter l'heure ou est-ce que les vêpres ont un rôle là-dedans? Je ne sais pas. Et donc, le curé s'est opposé à cet enterrement, ben, il n'a pas eu gain de cause. Un autre acte, il note qu'il a été empêché de faire un baptême dans l'église et qu'il a dû aller faire un baptême dans la chapelle du Four, qui n'existe plus actuellement. Un autre homicide, le 22 janvier 1638, Martial Fontourcy, du village de la Rougerie de Noyac, a été tué près de la croix de Pérignac. Son corps a été transporté dans la chapelle Saint-Maximin. Dès qu'il est fait allusion à la chapelle Saint-Maximin, on est sûr qu'il y a une affaire de protestants. Et un autre aussi qui s'appelait Jean Tournary, d'Orniac de Noyac, qui avait été trouvé tué aussi la même année 1638. Donc, en lisant entre les lignes, on voit que l'abbé Durand, de temps en temps, parle des protestants. Alors, il faut savoir qu'il était en minorité à ce moment-là, l'abbé Durand. Il y avait moins de catholiques que de protestants à Collonges. Alors, où on peut trouver... Alors, voilà, je vous ai parlé tout à l'heure des registres d'Argentat. Alors là, justement, on est à Argentat. Et on voit qu'il va être question de Collonges. Le 15 janvier 1620 a été présenté au baptême par M. Jean Barba, pasteur de l'église de Collonges, et Messac, demoiselle Elisabeth du Laurent depuis la garde, donc ça c'était la marraine aussi, donc veuve je ne sais pas si elle écrit, de Bourgnoux, sur Bourgnoux, une fille, née le 4 décembre. Alors on voit aussi que les protestants, ils ne baptisent pas tout de suite. Les catholiques, on baptise le jour même de la naissance, le lendemain, enfin très vite. Là, on voit que cette petite fille est née le 4 décembre, on va la baptiser le 15 janvier. Et quelquefois, on voit des dates bien plus éloignées, hein, plusieurs mois quelquefois. Donc, c'était donc fille de M. David Bourdac, pasteur de l'église d'Argentat. Et de demoiselle Marie Barba, donc le même nom que le pasteur de Collonges, sa femme. Donc, on voit que le pasteur de Collonges et celui d'Argentat étaient beaux-frères. Et lui a été imposé le nom d'Elisabeth, qui est aussi un prénom protestant. Mais vous m'aviez dit que c'était surtout à cause d'Elisabeth de Nassau.
Beaucoup, on avait beaucoup appelé Elisabeth de Nassau, c'était la vicomtesse.
Ouais, voilà. Donc on connaît peu de noms de pasteurs de Collonges. On sait qu'en 1620, il s'appelait Jean Barba. 1624, il s'appelait Pompée de Rémiens-Reville. En 1661, on en reparlera, on a un Jean Bory. Mon aïeul qui était pasteur à Turenne s'appelait Pierre Huron. Voilà. On a peu de documents. Ça, c'est vraiment le problème quand on veut étudier les protestants, c'est ce manque de documents. Donc nous allons parler des mythes qui entourent le protestantisme à Collonges. Alors voilà un plan de l'église. Alors bon, vous connaissez l'église de Collonges, elle est assez particulière, elle a deux nefs. Voilà. Alors évidemment, si vous suivez l'église tous les jours, il faut y aller, cet après-midi, s'il y en a, on va vous dire, mais oui, mais c'est qu'à Collonges, on sait partager l'église. On s'entendait très très bien. Il y avait une nef pour les protestants et une pour les catholiques. Et tout le monde s'extasiait. C'était merveilleux, cet écuménisme. Bon alors, pourquoi pas? Mais on voudrait bien avoir des preuves. Parce qu'il se trouve que tous les documents qu'on a prouvent le contraire en fait. Prouvent qu'on s'est quand même pas mal disputé cette église. Alors nous avons fait une conférence il n'y a pas longtemps avec Madame Guély à Collonges. Ils n'aiment pas qu'on dise ça. Hein, parce que c'est un peu leur fond de commerce, cette histoire. Hein, les protestants, ils s'entendaient bien. Alors, il y a ça, et puis, bon, ils sont tellement habitués, ils l'ont tellement entendu dire. Par contre, on s'est demandé depuis quand on le disait.
Alors, justement, là, je voulais vous lire le passage 2.
Et il n'y a pas si longtemps, en fait, qu'on le dit, cette histoire.
C'était ça, votre
ouais, c'est ça.
Ouais. Alors, c'est difficile de savoir à partir de quel moment ça se passe. L'abbé de Poulbrière, par exemple, qui a fait le dictionnaire des paroisses archi connu de tout le monde, à l'article Collonges, ne parle absolument pas du partage de l'Église. Donc en 1900, ce n'était pas une idée qui était venue aux gens, on aurait parlé forcément si ça s'était dit. Donc 1900, on n'en parle pas encore. Pourquoi on n'en parle pas encore? Parce qu'à ce moment-là, les protestants et les catholiques savent parfaitement que c'était absolument impossible, ça ne s'est passé qu'en Alsace. En Alsace, parce qu'il y avait des princes allemands qui étaient tantôt catholiques, tantôt protestants, et ils se sont entendus pour partager certaines églises. Évidemment, pas au même heure, et pas au même jour. Mais enfin, c'était le prince qui décidait. En l'occurrence, en Vicomté de Turenne, c'est comme dans toute la France, on a, au moment de l'édit de Nantes, bien précisé que les protestants devaient rendre les églises aux catholiques quand ils les avaient prises et qu'ils étaient majoritaires, mais ils pouvaient garder les chapelles. Alors il y a beaucoup de chances pour que tout simplement on ait rendu l'église au curé, tout en entrant dans l'église et en faisant du bruit pendant la messe. Ça c'est probable, très, très probable. Il y a dû y avoir des trucs comme ça. Et pendant ce temps-là, les protestants se mettaient à Saint-Maximin.
Qui est beaucoup plus petite, quand même.
D'autre part, les protestants se rassemblaient aussi dans les maisons.
Ça, on va le voir.
Simplement. Oui. C'était très courant. Oui. Ils n'ont pas besoin d'un édifice consacré comme les catholiques. Les catholiques, c'est consacré. Donc, en 1900 aussi, ce qu'on savait, c'est que quand une église avait été souillée par des hérétiques, c'est-à-dire quand une église avait été souillée, vraiment, il fallait la purifier. Alors vous pensez bien qu'ils ne pouvaient pas se partager une église en la purifiant tous les mardis lorsqu'elle avait été utilisée lundi par les protestants. C'est compliqué. Donc ça, on le savait, l'abbé Poulbrière le savait en 1900. Et nous arrivons en 1923. Alors en 1923, c'est l'époque où on découvre qu'en haut de l'église, il y a des petits bas-reliefs et des trucs qui ont été mis très haut et qui en réalité étaient dans le tympan. Avant. Et on les descend. Et c'est l'architecte Malieu qui descend tout ça et qui fait que maintenant le tympan de Collonges est très beau. Il a été reconstitué. Si vous voulez, tous les morceaux étaient disposés dans le mur, dispersé, ouais. Tout à fait en haut. Et alors ce Malieu,
il a dû se dire, mais pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi les gens de Collonges sont amusés à aller mettre tout ça là-haut? Et d'autre part, nous sommes en 1923, lui, il sait pas, il n'a pas de connaissance particulière sur le culte protestant et catholique, il va donc imaginer son truc. Comment expliquer maintenant que ce tympan ait été enlevé et que le portail ait été muré? Alors, l'auteur de l'article dit « Voici l'opinion de M. Mailleux. Elle est sans doute la plus plausible. Au XIIe siècle. » Alors, XIIe, ça c'est les journalistes. Vous pouvez être tranquille, il n'y a pas une date exacte dans un article de journaliste. XIIe siècle. Au XIIe siècle, Gédéon de Vassignac,
oui.
Monsieur donc, qui est né en 1650, au XIIe siècle, Gédéon de Vassignac, seigneur de Collonges, était en même temps gouverneur de la vicomté de Turenne. Comme son maître, le duc de Bouillon, c'est-à-dire le vicomte de Turenne, il embrassa le protestantisme et l'imposa à Collonges en installant un ministre du culte réformé dans une partie de l'Église. Alors, les catholiques fervents ne durent pas tous s'incliner devant la toute-puissance des Vassignacs. Les deux parties se disputèrent, la possession du temple, et la lutte fut souvent sanglante. L'étude de ce curieux épisode de nos tristes guerres de religion est encore à écrire. Eh ben oui, il est encore à écrire. Sans doute, chaque partie fut tour à tour vainqueur et vaincu. Lui, il ne se mouille pas. Mais bon, quoi qu'il en soit, deux thèses sont en présence. Ou les protestants devenus nouveaux iconoclastes voulurent se débarrasser de la vue de ces sculptures que leur religion réprouvait, ou les catholiques craignant la destruction par les protestants de ces sculptures vénérées décidèrent de murer le portail et de mettre les pierres du tympan hors de portée malfaisante des religionnaires. En somme, on n'en sait rien.
Non, on ne sait toujours pas, parce qu'il n'y a pas eu de...
On ne sait toujours pas.
Il n'y a pas eu d'études archéologiques.
Et d'ailleurs, ils disent... Néanmoins, il est étonnant que le souvenir de ces luttes se soit complètement perdu. La tradition orale aurait pu tout au moins révéler l'existence de ce portail qu'un simple plaquage, fort bien appliqué du reste, cachait à la vue. Donc, on est en 1923. Il n'y a toujours pas la légende du partage de l'Église par les catholiques et les protestants. Ça va donc être après 1923.
C'est peut-être à partir du moment où il y a les amis de Collonges et où
oui,
on, qui a
c'est
les,
ça.
C'est ça,
c'est
1928.
Ça. Oui, oui. Oui, oui. Je suis témoin, je suis de là-bas, je suis là-bas. Et donc c'est à partir de l'évolution touristique.
Touristique.
Et en parallèle du développement des amis de Collonges, que cette légende, entre guillemets, a été mise au point. Mais peut-être aussi grâce à cet architecte donc, qui a supervisé la remise en place du tympan, qui avait écrit ça. Mais alors, il faut savoir aussi qu'à Collonges, vous êtes les premières, et ça c'est formidable, chercheuses, historiennes et chercheuses, depuis, je ne sais pas, depuis peut-être même le 19e, puisque c'est Bial et son fils qui ont écrit, mais après, depuis, moi, je ne connais
pas
d'historien vraiment qui ait travaillé sur les archives de Collonges. Donc, il y a un vide. Alors, quand il y a un vide, eh bien, on le remplit.
Ah oui.
Alors, je vais terminer aussi, parce que je suis née en 1954, et alors, l'histoire de la porte des protestants que j'ai vue, j'ai assisté à votre conférence dans le cadre du 90e anniversaire des amis de Collonges. Moi, je suis de là-bas et je suis de souche, donc je suis du petit peuple collongeois. Moi, dans mon entourage, personne n'appelait cette porte la porte des protestants. Moi, je l'ai entendue appelée par les gens qui avaient des maisons secondaires à Collonges et qui tenaient les amis de Collonges. Voilà. Et ça, c'est clair dans ma tête. Et quand j'ai entendu ça, je n'en revenais pas.
Oui.
Voilà.
Ouais. En même temps,
j'étais au catéchisme à Collonges et tout. Et bon, et ma grand-mère était née, j'ai connu ma grand-mère, qui était née en 1890 à Collonges et elle n'a jamais employé ce mot.
Non.
Elle était tous les dimanches à la messe.
Oui. Mais alors, ce qu'il y a, c'est qu'effectivement, il n'y a jamais eu d'études, même archéologiques. Donc, l'autre jour, on a fait deux conférences à Collonges.
Oui, la deuxième,
et là, il y avait Madame Fender, le maire de Collonges.
Oui.
Et donc, on s'est permis de dire, si vous avez quelques fonds, mais ça, les mairies n'en ont pas, faites faire des sondages, une étude archéologique. Parce qu'il y a toujours ce mystère des deux nefs, mais enfin, ce n'est pas vraiment un mystère. Enfin, à mon avis, il y a une explication.
Oui.
Et l'histoire du tympan, à quelle époque il a été démembré, ça, on ne sait pas vraiment. Par contre, l'histoire des deux nefs, c'est peut-être c'est une histoire toute bête. C'est que. Si vous savez comment est disposée l'église, si on voulait l'agrandir, parce que la partie la plus ancienne, c'est celle-ci, ben là, on a la halle, on ne peut pas l'agrandir par l'avant. Là, c'était donc des jardins. Oui. Derrière, il y a une pente assez importante. Si on voulait l'agrandir, bah, c'était sur le côté. C'est peut-être tout bête, hein, faut peut-être pas chercher plus loin.
Et juste par rapport à ça, un petit détail, bon, il se trouve que j'ai suivi et je suis toujours des cours d'histoire de l'art, notamment à Maroman, à Bordeaux, à l'université de Bordeaux. Et alors, j'ai beaucoup réfléchi sur l'église de Collonges. Évidemment, ce n'est qu'une hypothèse que j'ai à formuler, parce qu'il faudrait faire des recherches précises. Mais bon, l'église, comme on le sait, avait l'église romane. Et ça, c'est vrai qu'il y avait une église romane. C'est la partie la plus longue aujourd'hui, la première dont vous avez parlé. C'est le vaisseau qui est sur la droite. Hein, et il y avait le transept qui est au niveau juste... voilà. Là, ça, c'était le transept romain. Alors, quand vous regardez les arcs plein cintre, ils concernent exactement... toute cette partie-là. Oui. Et c'était probablement une église avec une abside au bout, comme il y avait toujours sur les églises romanes. Elle a été cassée, et c'est un chevet plat qui a été mis. Hein. Et on a agrandi au nord, comme dit Mme Soulignac, sûrement pour des raisons de place, parce qu'en bas, on ne pouvait pas trop. Cette église devait être... parce que, vu le, temple, le clocher qu'il y avait, et qu'il y a toujours, le clocher roman 12e et le tympan, c'était une église importante à l'époque romane. Oui. Et il devait y avoir probablement, et je crois avoir trouvé les traces, il y avait des collatéraux de chaque côté. Ce qui avait souvent, donc ça donnait une église à trois vaisseaux, mais plus petite. Et puis je crois qu'aussi ils ont voulu faire des voûtes très hautes, etc. Et que peut-être il y a eu aussi des effondrements, ce qui était souvent le cas à l'époque romane.
Ce qui est quand même incroyable, c'est que ce village de Collonges qui est classé, surclassé, connu partout, ben l'église n'a jamais été vraiment étudiée.
Et non, alors c'est
quand
dommage,
même très étonnant.
Ça serait une proposition à faire aux élus, je ne sais pas, des amis de Collonges.
On peut proposer, mais...
ouais, ah non, mais ils sont axés. Alors là, j'ai été stupéfaite, honnêtement, je peux le dire, quand vous avez démontré que donc, l'histoire, il n'y avait pas de preuves tangibles, pas plus dans les documents que même dans la pierre de Collonges, qu'on ne puisse pas accepter cette hypothèse.
Ah, ils y tiennent, hein.
Et donc, je pense qu'ils ne sont pas mûrs.
Ah, peut-être.
Ils ne sont pas mûrs.
Oui.
Vous savez, à Turin, par exemple, pour leur faire admettre que l'église ne date que de 1660 et pas du XVIe siècle, il a fallu leur montrer les papiers de prix. C'est-à-dire le prix fait à la
devinette,
le devis.
C'est-à-dire qu'ils n'ont pas la notion des preuves historiques.
Ouais. Oui. Bah, c'est une belle légende, alors ça leur plaît.
Oui, voilà, bien sûr. Voilà, oui. Bon, après tout.
Alors, c'est intéressant. Donc, dans l'église de Collonges, on trouve. Alors, dans l'église, je vais vous dire où elle se trouve actuellement. Elle se trouve ici, je pense. On la voit pas vraiment. Il faut vraiment aller au fond de l'église. Puisqu'actuellement, bon, le culte est pratiqué ici, dans cette nef-là. Où ici, vous avez un retable typique de la contre-réforme. Et cette partie-là n'est pas utilisée, finalement.
Non, très peu. Très peu. Il y a énormément, un enterrement avec énormément de gens.
Oui, voilà. Et donc, il existe encore donc, une chaire protestante. Alors là où on voit, je vous ai parlé tout à l'heure de l'abbé Barrault. Donc l'abbé Barrault, qui est curé de Collonges, qui commence vers 1840, et qui fait un inventaire du mobilier d'église. En 1847, on voit qu'il ne sait pas qu'il y a eu des protestants, en tout cas, il ne veut pas en parler. Il dit qu'il y a une chaire à prêcher, modeste mais solide. Voilà, c'est tout ce qu'il trouve à dire. Alors, ça veut dire qu'elle était déjà là en 1840, voilà ce qu'on sait. Maintenant, quand est-ce qu'elle y était, on ne sait pas. Voilà. Et à la fin du 19e siècle, donc quand Poulbrière parle de l'église de Collonges, il note que la nef principale, donc on peut y revenir, donc la grande nef, là, elle n'est déjà plus utilisée, et il dit qu'on l'utilise pour entreposer des chaises. Voilà.
Et la chaire, elle sert à entreposer des trucs à nettoyer.
Les produits de nettoyage. Actuellement, c'est ça. Voilà. Marqué d'un autre côté, comme vous avez dit un jour, tant mieux, parce qu'elle aurait pu être volée. Heureusement que les gens ne savent pas.
C'est extrêmement rare, les chaires portatives protestantes. C'est-à-dire qu'elle peut être transportée,
elle se plie. On voit qu'il y a des charnières. Il y a des, là, il y a des... enfin, c'est peut-être pas ici, mais il y a des charnières. On voit que c'est un meuble pliant qui se démonte.
Heureusement que les Collongeois catholiques, après la révocation de l'Église Nantes, ont oublié que c'était une chaire protestante.
Il aurait probablement brûlé.
Si jamais, parce qu'il aurait forcément brûlé. Et c'est donc extrêmement rare.
Oui. Alors, parmi les documents, dans les registres de l'abbé Durand, il est fait question plusieurs fois d'un conflit, donc entre les catholiques et les protestants. Par exemple, le 22 septembre 1633, il parle du problème du tour de l'église. Alors, nous, on avait compris au départ la tour de l'église. Non, il s'agit bien du tour de l'église. Alors, en fait, voilà l'église dans Collonges. Et en fait, l'abbé Durand, comme ses prédécesseurs, voulait faire une procession qui aurait fait le tour de l'église. Seulement, en faisant le tour de l'église, il passait dans le jardin, ici, là, de monsieur de Canol, c'était à l'époque, qui étaient donc des protestants et qui s'y opposaient. Voilà. Et donc, il va y avoir un procès qui va quand même durer longtemps, puisqu'on en parle encore en 1657. Donc, vous voyez, on en parle en 33, on en parle encore en 57. Donc, dire qu'ils s'entendaient à merveille, c'est pas prouvé. Donc, en fait, il fait... Alors ça, moi, je suis encore à la veille, il faudrait que j'y aille, d'aller aux archives de Bordeaux, puisque c'est là que se tiennent donc les archives du Parlement de Bordeaux. Mais alors, elles sont, comment dire, elles sont triées que par ordre chronologique. Alors, vous parlez d'un boulot de voir tout ça. Puisque c'est là-bas qu'ont été jugés donc, les procès. Et donc l'abbé Durand note, donc, en 39, donc il en parle déjà en 33, et en 39, il note qu'il a fait venir un peintre de la ville de Sarlat pour faire une vue figurée du tour de l'église. Donc il voulait prouver ce qu'il disait en faisant faire un plan, quoi, en quelque sorte. Donc ce serait très intéressant de retrouver ce document s'il a été, conservé. Alors on va voir que les protestants, donc ils ont donc, la chapelle des pénitents... qui est ici, hein. Et mais comment dire, il y a bon, l'édit de Nantes 1598, c'est un édit de tolérance, c'est-à-dire c'est pour mettre fin aux guerres de religion. Ça veut pas dire vous pouvez faire tout ce que vous voulez, ça veut dire bon, on veut bien admettre, continuer votre culte, mais à condition de rendre donc les églises, et on va autoriser certains lieux et pas d'autres. Et puis pendant tout le siècle qui va amener jusqu'à la révocation de l'édit de Nantes. Donc 1685, en fait, petit à petit, on va grignoter tous les avantages qu'on avait laissés aux protestants. Par exemple, à partir de 1645, ils n'ont plus le droit de prêcher dans les annexes, comme on disait. Et Collonges oui. était une annexe.
Oui, parce que l'église mère, si on peut dire, enfin le temple mère, c'est le temple de Turenne. Turenne, c'est ce qu'on appelle une place de mariage. Les places de mariage ou places de sûreté, c'est les places qu'au moment de la ville de Nantes, on a accordées aux protestants, et où ils pouvaient avoir des troupes pour se défendre contre une éventuelle attaque des catholiques. Ça se passe donc en 1598, au moment de... Bon. Alors, sous Louis XIII, les protestants, comme vous le savez, ont fait plusieurs révoltes autour de 1622, et Louis XIII leur a supprimé les places de sûreté. Donc, à partir de 1622, Turenne n'est plus une place qui a le droit d'avoir une armée, voyez, contre les catholiques. Alors, le temple de Turenne, en principe toujours suivant les guides de Nantes, le temple de Turenne, il y en a deux. Il y a le temple du vicomte, qui est un temple privé, c'est-à-dire que c'est son ancienne chapelle castrale qui se trouve dans le château. C'était la chapelle castrale Saint-Pantaléon, et elle va donc devenir l'oratoire privé du vicomte, qui a le droit d'avoir avec lui ses serviteurs, des vassaux, enfin, qui voudra pour remplir cette chapelle. D'autre part, pour la population de Collonges, qui est protestante, c'est-à-dire presque tous les bourgeois de Turenne, il va donner une maison qui se trouve tout à côté du château, qui lui appartenait.
C'était pas l'endroit, mais on va la montrer.
On va la montrer quand même. Voilà. Quand vous arrivez au château, vous allez monter au château, juste à côté, de votre côté, là, à droite, vous avez une très belle maison, qui est composée en réalité de deux maisons voisines. Le vicomte de Turenne va alors se servir de cette maison comme auditoire de justice, c'est-à-dire que c'est là que se tenait la justice de la vicomté de Turenne, au rez-de-chaussée, et il va donner aux protestants le premier étage. On dit, on a beaucoup de place, c'est une maison double, hein, très très grande.
Cette photo est bizarre, c'est parce que je l'ai prise sur Google Earth, et que vous savez, ça bouge. Donc c'est pour ça que là, vous avez un truc un peu curieux, et le panneau tout bizarre, là.
Non, c'est pas grave, vous la voyez, c'est
grave. Maison,
voyez. Oui, oui.
Alors, on peut voir où elle est. Alors ça, c'est Google, c'est Turenne vue par Google Earth. Alors, elle est où? Parce que voilà le château, il est en haut. Elle est par là, non? Oui. C'est pas là.
Où est-ce qu'on est, là?
Non, c'est pas perdu. Bah, je l'ai mise nord-sud, pourtant. Hein.
Donc là, c'est... Tout en haut, c'est juste à l'entrée du château.
Juste à l'entrée du château, là. Voilà. Alors, donc, si on revient à Collonges... Donc, on a vu donc, les endroits donc, utilisés par les protestants. Donc, ça va être la chapelle des pénitents, chapelle Saint-Maximin. Ensuite, vous avez cette maison. Alors, que je peux vous situer sur le plan. Donc, c'est ce qu'on appelle le château Binge. Qui ne devrait pas s'appeler comme ça, n'est-ce pas, madame?
Non, ça ne devrait pas s'appeler le château Binge. Parce que le constructeur de cette maison, très belle maison, il s'appelait Richard de Beauchesne. D'ailleurs, on voit ses armes sur la cheminée de la maison. C'est un chêne, tout bonnement. Ce Richard de Beauchêne était le capitaine et le gouverneur de Limeuil, Limeuil en Périgord, qui appartenait au vicomte de Turenne. Autrement dit, c'était sa maison d'été. Il était à Limeuil tout le reste de l'année.
Parce que donc, comme on a dit, le culte protestant n'a pas forcément besoin d'un lieu particulier. On peut très bien faire le prêche, faire la scène, même donc la communion, chez un particulier. Il suffit que le pasteur se déplace. Et donc la religion réformée, une des grandes différences avec la religion catholique, c'est que c'est une religion beaucoup plus privée. Donc on prie en famille, on lit la Bible, et même dans des endroits, alors c'est après ce qu'on a vu, par exemple l'église du désert, donc dans en Ardèche et tout ça, une fois qu'ils sont vraiment persécutés, ils peuvent à la limite faire le culte dehors, dans une forêt, n'importe où. Il n'y a pas l'obligation d'avoir un endroit particulier. Donc on sait qu'il va y avoir des cultes dans cette maison. Dans cette maison, qui est la maison Canole, et donc celle qui est juste à côté de l'église, c'est celle-ci, là. Voilà.
Elle appartient maintenant à Monsieur de Chauvron.
Monsieur de Chauvron, actuellement. Voilà. Et donc, on sait... Alors là, par contre, on a des textes. On a des documents de justice, parce qu'il y a eu des problèmes, de ce genre de choses qui sont passées dans cette maison. Par exemple, le 7 juillet 1661, il y a eu une enquête contre le pasteur Jean Bory, dénoncé pour avoir prêché en dépit de l'arrêt royal de 1659, celui qui interdisait de prêcher dans les annexes, donc à Collonges. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qui sont les dénonciateurs. Donc c'est Jacques Vézy, juge de Messac, Jean Andrieux, bourgeois, et le sieur Beauviry. Et donc ils vont déposer, et ils racontent ce qu'ils ont vu. Et il y a aussi Romain Sérac. Alors ça c'est assez intéressant, parce qu'on voit cette famille Sérac, elle est vraiment partagée. Il y a à la fois des catholiques et des protestants chez les Sérac, mais elle n'est pas la seule famille dans ce cas. Donc Romain Sérac, bourgeois du dit Collonges, âgé de 50 ans, dépose que le 29 mai, étant à la fenêtre de sa maison, il vit passer, sous icelle fenêtre, grande quantité de personnes de la religion prétendue qui s'en allaient à la Seine, donc Seine, C-E-N-E, dans la maison du sieur de Canole. Et étant allé sous la halle de Collonges, elle est juste à côté là, vous voyez bien, on l'imagine caché derrière un pilier là, il vit sortir de la dite maison grande quantité de personnes de la dite religion qui sortaient de faire la Seine. Alors il reconnaît, parce qu'il dénonce, on est là pour dénoncer, le fils de Colly marchand, Andrieux bourgeois, alors qu'il y avait un Andrieux dénonciateur aussi, vous avez vu, Binge, Urbain de Balâtre, des gens de Turenne, d'Argentat, de Salagnac, de Messac, qui étaient venus pour écouter, donc ce pasteur Bory qui semblait avoir quand même une grande influence. Et Jacques de Vézy, qui était avocat à Messac, il dépose donc le même jour, étant sous la halle, un dimanche matin, alors c'est à peu près la même chose avec des petits détails en plus, il vit quantité de personnes de la religion prétendue réformée qui s'assemblaient dans la maison du sieur de Canole, aboutissant à l'église du présent lieu, entre lesquelles personnes de la dite religion, il y en vit de Turenne, de Salagnac, d'Argentat et de Messac, et plusieurs qui portaient des sièges dans la dite maison. Et quelque temps après que ces personnes en grand nombre furent entrées, il vit un jeune homme habillé de noir, accompagné de deux autres personnes qui entraient dans la maison. Et s'étant informé de qui entrait dans la dite maison, on lui dit que c'était un nommé Bory, ministre, donc pasteur, qui venait pour prêcher et faire la scène aux religionnaires. Et depuis, il a ouï dire à diverses personnes du lieu même qu'ils avaient fait la scène ce jour-là et qu'ils y seraient bien davantage qu'on ne leur saurait empêcher. Donc on est dans une dénonciation. Et donc on va arriver vers la période où il va y avoir le déclin donc, des autorisations qu'on donne.
Oui, parce qu'il faut d'abord, si vous voulez, donner un petit peu comment ça s'est passé. Jusqu'à la mort d'Élisabeth de Nassau, 1643, donc les protestants sont parfaitement tranquilles en vicomté, malgré Richelieu et malgré Louis XIII. Il ne faut pas oublier que Louis XIII avait voué la France à la Vierge et qu'il avait décidé quand même de se débarrasser plus ou moins des protestants. Quant à Richelieu, c'était plus douteux parce que Richelieu, à cause des guerres, était allié au prince protestant d'Allemagne. Il ne voulait donc pas trop les vexer. Donc, il n'a pas été véritablement très dur avec les protestants. Donc, tous les deux sont morts en 1642, comme Élisabeth de Nassau, et on passe à la régence. La régence, c'est Mazarin. Mazarin a presque tout de suite été en butte à des révoltes de seigneurs et des révoltes de parlement qu'on a appelées la Fronde. Et les protestants se sont tenus pendant cette période parfaitement tranquilles. Ils ne se sont pas mis ni du côté du Parlement, ni du côté des grands seigneurs. Mazarin leur a donc été très reconnaissant, et il a suspendu toutes les vexations qu'on faisait aux protestants jusque-là pour essayer de les convertir. Et ça, ça se passe donc entre 1649 à peu près, au moment de la fronde, 1654. Alors, après 1654, il est toujours ministre du jeûne de Louis XIV, et il ne meurt qu'en 1662, Mazarin. Donc, jusqu'à cette date, ça se passe encore très bien. Et puis, voilà que Louis XIV arrive au pouvoir personnel, et lui, il a décidé vraiment d'éradiquer les protestants. Il va donc prendre toute une série de mesures successives entre donc, 1662 et la révocation de l'édit en 1685, qui petit à petit font que les protestants sont de plus en plus persécutés. Ils n'ont plus le droit d'être dans l'armée et ils n'ont plus le droit d'être fonctionnaires publics. Donc ils vont être obligés d'être marchands, un peu comme les juifs au Moyen-Âge, si vous voulez, ils vont être obligés d'être marchands ou d'aller à l'étranger. Ensuite, les enfants de protestants peuvent se convertir dès l'âge de 8 ans. Autrement dit, on leur fait un peu... Bon, on les prend à l'école et puis on essaye de les convertir. Ensuite, ce qu'on appelait les annexes, c'est-à-dire des endroits comme Messac et Collonges, qui étaient les annexes de Turenne, n'ont plus de pasteur propre. C'est seulement le pasteur de Turenne qui aura le droit, à la rigueur, d'aller dans les autres annexes. C'est pour ça que M. Bory, il y va quand même.
Il y va quand même.
Mais ça se passait au temps de Mazarin. Ça se passait à une époque où c'était encore faisable. Ensuite, les curés se mettent à avoir le droit d'être au premier rang dans les assemblées de protestants et de porter la parole, c'est-à-dire de contredire le pasteur. Vous voyez un peu l'ambiance. Bref, on peut dire que dès les années 1670-75, le sort des protestants est à peu près scellé. Il va falloir 10 ans encore pour les interdire, mais voilà.
Donc on arrive, donc 22 octobre 1685, donc l'édit de Fontainebleau, qui est plus connu sous le nom de révocation de l'édit de Nantes. Et donc avec cet édit, ben voilà, le protestantisme donc est interdit donc sur le territoire français. Les pasteurs sont obligés de quitter la France. Et on va insister sur les abjurations. Alors donc présence, voilà à peu près où étaient les protestants en France au moment de la révocation.
Alors bien sûr les Cévennes, une énorme tâche, vous voyez tout ce coin. Ensuite la région de Valence et aussi la Drôme, vous voyez, jusqu'à Lyon ou à peu près. Ensuite beaucoup en Charente et en Vendée. La Vendée, il y a des choix très catholiques, mais il y a aussi des protestants, très protestants. Vous voyez, la Vendée était vraiment partagée en deux. Et puis, c'est vallée de la Dordogne, vous voyez, les descentes des fleuves. Et il se trouve, bon, alors la comté de Turenne, c'est petit, ça ne vous donne pas grand-chose. Et puis le Béarn, bien sûr, qui était le pays d'Henri IV.
Donc, on va trouver des formules d'abjuration. Et on va trouver, donc, dans les registres paroissiaux de Collonges, eh bien, des protestants qui abjurent. Alors là, nous sommes donc l'an de grâce 1685, le 13e jour du mois de septembre. Alors là, on est juste avant la révocation, ce qui prouve bien qu'on savait que ça allait arriver de toute façon. Donc en présence, je ne sais plus ce qui est écrit là, donc c'est noble Isaac de Canolles, donc on a parlé juste à l'heure, sieur de la Baume, et demoiselle Marthe de Dumont, sa femme, Antoine de Canolles. Donc on voit que c'est des familles qui vont se convertir. Donc on met leur âge, on met tout ça, et donc la formule, c'est ayant reconnu que hors de l'Église catholique, apostolique, romaine, il n'y a point de salut, et de leur bonne volonté, et sans aucune contrainte, on fait profession de la foi catholique et romaine. Alors, ça, c'était la formule donc, que l'on envoyait aux prêtres qu'ils devaient appliquer. Alors, en fait, normalement, il y avait toute une cérémonie, hein, parce qu'on devait sonner les cloches, il fallait qu'on sache qu'on avait converti des protestants. Donc, on devait chanter, enfin, il y avait des tas de choses à faire. Et donc, alors quand on dit de leur bonne volonté sans contrainte, bon, ça c'est autre chose. C'est pas prouvé. Parce qu'en fait, quel choix ils avaient, quoi. Je veux dire, ils étaient quasiment obligés de se convertir. Encore que tant que la vie comtée était un peu indépendante, voilà. C'était encore assez. C'était possible. Mais dans les autres parties de la France, non, il n'y avait pas trop de possibilités. Hein. Donc la force passe la raison, dit cette gravure. Ben oui. Et donc on va voir à Collonges donc les abjurations, donc pendant tout le mois de septembre, octobre, jusqu'en décembre. Donc voilà les gens qui vont abjurer, donc par famille entière.
Donc, on voit donc des séracs, là. Voilà, le colis marchand. Alors, ça, c'était donc le jeudi 13. Le lendemain, beaucoup d'abjurations. Alors, vous voyez qu'on n'a pas affaire à n'importe qui. Hein. Deux Beauchesnes, deux Ramades. On est dans des familles importantes. Donc, notre chirurgien, voilà. On voit leur âge, on voit tout est expliqué. Et ça continue encore donc, le 15 septembre. Alors, on a toute une famille, la famille Colli. Donc, j'avais reconstitué cette famille Colli, qui était donc une famille où tout le monde était protestant. Les Bourdari, donc c'est un nom qu'on a déjà vu. Les Moliniers, qui étaient aussi à Turenne. Donc, Ramade, Ponché.
À partir du moment où ils n'ont plus eu le droit d'être officiers de justice, ils se sont plutôt réfugiés dans des métiers type chirurgien, médecin, apothicaire. Vous voyez, ces métiers qui sont des métiers de marchand, mais disons le cran au-dessus, quoi. Il fallait qu'ils trouvent des métiers adaptés.
Et alors, on a aussi donc des lettres à l'intendant. Donc ça, c'est Mme Guély qui nous a...
Ah oui, alors, en principe, la vicomté de Turenne, des villes comme Argentat, Beaulieu, Saint-Céré et Turenne, ainsi que Collonges et Messac, étaient... pour tous les bourgeois ou presque protestantes. Alors, je ne parle pas des artisans aussi. Beaucoup d'artisans, type parcheminier à Beaulieu ou aiguillotier, des métiers de l'époque, étaient des métiers protestants, la plupart du temps. Donc, il faut imaginer qu'au moment de la révocation, ça a été un problème de savoir comment convertir cette vicomté. Le vicomte était en principe assez indépendant. Ce n'est pas une souveraineté, si vous voulez, pas souverain. Mais il a un statut spécial en France. Les armées du roi ne pénètrent pas en vicomté. Elles n'y logent pas. Jamais elles n'y logent. Or, plus simple, lorsqu'on voulait convertir des protestants, c'était de loger des soldats chez eux. Parce que là, ils pillaient tout, ils brûlaient les meubles. Et voilà, et naturellement, les gens se convertissaient. Donc, l'intendant de Limoges et l'intendant aussi de Cahors, tous les deux, n'osent pas entrer en vicomté. Ils vont donc un petit peu noyer le poisson, si on peut dire. 6 octobre 1685, lettre du ministre à l'intendant, le ministre, c'était le ministre chargé donc, de ces questions des protestants. Alors, Sa Majesté a été bien aise d'apprendre que la ville d'Argentat se soit convertie. Elle ne doute pas que vous n'obligez pas le reste de la vicomté de Turenne à en faire de même. Ça veut dire que l'intendant a envoyé une lettre au ministre et il lui dit « Tous les gens d'Argentat sont convertis ». Bon, il ne vient pas vérifier. Hein. D'autre part, on ne trouve pas dans les registres catholiques d'Argentat, s'ils existent, la moindre trace d'une conversion générale de tous les protestants d'Argentat. Donc, si vous voulez, il a noyé le poisson côté Argentat. Alors, 20 octobre 1685, lettre à l'intendant. Toujours une lettre du ministre. L'intention du roi est que vous lui rendiez compte du nombre de religionnaires, commence à se méfier là, qui restent dans la principauté de Turenne, et que vous fassiez entendre à celui qui commande pour le duc de Bouillon, c'est-à-dire pour le vicomte de Turenne, que l'édit que le roi vient de donner pour le rasement de tous les temples et de faire sortir les ministres du royaume doit être exécuté, comme dans tout le reste de votre département, et que, s'il ne se met pas en état de rendre compte au roi au premier jour, vous ne doutiez point que Sa Majesté y envoie des troupes pour le faire exécuter. Vous voyez que c'est un peu une lettre de menace, parce qu'il a eu l'impression certainement que l'intendant lui racontait des craques, et puis il y a eu certainement aussi des grands seigneurs catholiques, le genre Noailles, par exemple, la famille de Noailles, qui détestait les vicomtes de Turenne,
et les Connac. Daniel de Gonac qui a sa rue à Brive,
qui a fêté dire au roi, vous savez, en vicomté, ça se passe mal. Voilà. Alors, dernier courrier, 11 décembre 1685, vous voyez qu'il a pris le temps pour répondre. Troisième lettre, alors cette fois-ci, c'est une lettre à l'intendant, toujours. J'ai reçu la lettre que vous avez pris la peine de m'envoyer. Sa Majesté a appris avec plaisir la conversion entière des habitants de la vicomté de Turenne. Et vous céderez du soin que vous avez pris à y réussir. Vous voyez que, on s'est résigné,
oui.
On n'aura pas de conversion générale des gens, ni de Beaulieu, ni de Saint-Céré. On n'a pas été obligé de faire entrer des soldats, parce qu'il y aurait eu probablement de la bagarre. Et donc, le roi si vous voulez, il a dû se résigner, il a dû se dire, bon, ben, laissons tomber.
Ça ne faisait pas tellement de monde non plus.
Ça ne faisait pas tellement de monde, mais oui. C'était un des îlots quand même.
Oui. Donc il n'y a pas eu vraiment de violence ici. Donc je vous parlais de Daniel de Connac, qui était l'évêque d'Aix.
Oui.
Et qui a été absolument redoutable dans les Cévennes. Vous avez un musée du désert, c'est déjà dans le Gard, où il parle de Daniel de Connac, mais alors c'est terrible ce qu'il a fait, quoi. Les dragonnades, tout ça. Alors il a enlevé les enfants à leur famille pour les mettre dans les couvents, il a emprisonné beaucoup de gens. Donc ici, on n'a pas eu ce genre de...
Dans le Midi, on n'a pas beaucoup de... On n'a pas une bonne réputation, parce qu'on a vraiment de Turenne. Quand vous allez du côté des Beaux, d'Avignon, et on vous raconte que vraiment de Turenne... Ça se passait en 1400. Hein. C'est battu avec le pape, et il a fait des choses épouvantables dans le pays. Et puis là, vous avez Daniel de Connac, il ne vaut mieux pas dire que on est des Limousins quand on vient en gare. Quoi.
Oui. Alors, quand il dit que tous les habitants sont convertis, ben non, puisqu'on voit qu'encore 15 jours plus tard, le 21 décembre, Anne Bande, donc âgée de 34 ans, donc on voit que sa famille s'était déjà convertie, donc il y en avait qui étaient plus coriaces, si on veut. Et donc, pareil, elle finit enfin par se convertir. Alors, on sait que tout le monde ne s'est pas converti. Dans les années 1730 encore, le curé de Collonges parle quelquefois de ceux qu'on a appelés les relapses. Alors les relapses, il y avait deux sortes de gens. Il y avait les relapses, c'est ceux qui s'étaient convertis, mais qui n'allaient pas pour autant à l'église. Donc ils continuaient tranquillement. Et ceux que le curé appelle les opiniâtres. Bon, j'aime bien les opiniâtres. Donc les opiniâtres, c'est ceux, il n'y a pas eu moyen, quoi. Et il y a un acte, alors malheureusement, il n'est plus visible cet acte, c'est vraiment dommage. C'était vers 1730, le curé de Collonges raconte, mais alors il y en a plusieurs épisodes, hein. En fait, il y a une vieille opiniâtre qui est âgée et qui est malade, et il va la voir tous les jours en lui demandant de se convertir, et elle est très opiniâtre, et elle ne veut pas. Et elle finit par mourir, bien sûr, et il écrit, bah, puisque c'est comme ça, je ne l'enterrerai pas dans mon église. Bah, justement, c'est ce qu'elle voulait, quoi. Et alors, on s'est demandé si cette opiniâtre n'était pas de la famille Sérac, puisque dans la famille Sérac, sur leur propriété, ils ont un endroit qu'ils appellent le Pré de Luguenote, et où ils savent qu'une ancêtre à eux est enterrée là. Donc, c'était peut-être elle, cette opiniâtre. Donc, en fait, qu'est-ce qu'ils ont pu faire d'autre, ceux qui ne voulaient pas se convertir? Ah, ben, ça ne marche plus, mon truc. Ah, ben, bien, bravo. Attendez, est-ce que je... Oui, ils sont après, je reprends là-bas. Attendez, je fais comme ça. Enfin, bref. Eh bien, il y avait l'exil qui était possible. Attendez, on va y aller comme ça, je ne sais pas pourquoi. J'espère qu'il pourra. Bon, là, c'est moi qui ai mal configuré. Oui, alors... Alors, l'exil, on sait qu'il y a quand même beaucoup de d'Huguenots donc, qui ont quitté la France, qui sont allés s'installer soit les pays du refuge, comme on a dit, c'est-à-dire la Grande-Bretagne, les Pays-Bas, en Scandinavie, jusqu'en Russie.
En Prusse.
Beaucoup. En Prusse. Ensuite, on les a vus en Afrique du Sud. Puis en Amérique aussi, pourquoi pas, après. Et donc... Une légende aussi, est-ce que c'est bien prouvé, dit que des gens de Collonges seraient allés s'installer à Canterbury. Alors ça, c'est pas impossible, parce que si l'on veut, quand on est pressé de fuir la France et qu'on habite à Collonges, bon, le pays le plus proche, c'est l'Espagne, mais c'était complètement hors de question, c'était encore plus catholique, c'était encore l'Inquisition, donc là, non, c'était pas un bon choix. Donc le plus proche, mais le plus rapide à atteindre, ben, c'est peut-être l'Angleterre, effectivement, en prenant le bateau jusqu'à Bordeaux, et puis on s'embarque. Et à Canterbury... Il y avait effectivement une église huguenote française assez importante. Et on m'a dit, mais moi, il faut que j'y aille aussi, il faut que j'aille faire ça, parce que j'ai beaucoup de voyages à faire, que dans la crypte de la cathédrale de Canterbury, il y aurait des noms de huguenots français et qu'il y aurait des noms typiques de Collonges. Bon, ça reste...
Il y a beaucoup de nobles protestants, de familles nobles protestantes, qui sont partis en Prusse. Le roi de Prusse a été ravi de les accueillir, et c'est eux qui ont formé l'armée prussienne. L'armée prussienne qui battra les troupes de Louis XV à plate couture, au temps de Louis XV, et puis que seulement Napoléon Ier, réussira à battre les corps de juste avant.
Et justement, l'autre jour, quand on a fait la conférence, la deuxième à Collonges, donc Annie Fège m'a dit qu'elle avait eu, il n'y a pas si longtemps que ça, la visite d'Allemands qui étaient venus donc à Vassignac, puisque c'est eux qui ont le château de Vassignac. et qui, cette dame, elle avait son arbre généalogique, elle descendait d'une branche des Vassignac, qui était partie, donc, s'établir en Prusse, quoi, en Allemagne. Donc, effectivement, il y a eu aussi un départ. Alors, on sait maintenant, avec du recul, que la révocation d'Eddy Nantes, ça a été probablement une des plus grosses bêtises, si l'on veut, de l'histoire de France, parce que ça a fait partir une élite. Une élite qui nous a manqué ensuite. Et alors, il y a des choses. Comment dire? En fait, ce manque de documents, c'est qu'il y a des choses difficiles à comprendre. Moi, j'avais étudié donc, les mariages à Turenne, donc on a les registres catholiques, seulement catholiques. Et bien pourtant, à partir de 1685, subitement, il y a une chute des mariages. On voit qu'il y a, on a l'impression que la moitié de la population n'est plus là. Puisque, par exemple, je n'ai plus les chiffres en tête, mais s'il y avait 40 mariages par an, d'un seul coup, il n'y en a plus que 20. Et pendant des années et des années. Donc, est-ce que les protestants, quand ils sont partis, ont amené avec eux des domestiques, des gens qui étaient catholiques? On ne sait pas trop. C'est difficile à dire.
Mais du fait qu'ils ne pouvaient plus être membres de la, de tous les officiers de justice et de police, etc., qui entouraient le vicomte, qui était, c'était ça, la population de Turenne, c'était des officiers du vicomte, ils sont partis parce qu'il n'y avait plus de travail sur place. Beaucoup sont partis à Paris, même convertis, même revenus au catholicisme. Ils n'avaient plus de raison d'être à Turenne, d'autant que la vicomté a été vendue en 1738 au roi. Donc à partir de ce moment-là, il n'y a plus du tout d'administration à Turenne. C'est devenu une coquille vide, hein, Turenne. Mmh. Et ce sont les paysans des alentours qui sont venus peupler les maisons de Turenne. Ce n'est pas le cas de Collonges.
Non.
À Collonges, les familles sont souvent restées sur place quand même.
Alors, si on veut reparler de Collonges, donc ce qui est beau à Collonges, ben, c'est tous ces petits castels avec des tours et tout ça. Ils ont vraiment été construits du temps des protestants et probablement par des familles protestantes.
Mais Turenne aussi. Mmh. Turenne, on vous dit que bourg médiéval, il ne faut pas marcher. Hein. Mmh. C'est un bourg du XVIIe siècle. L'église ne date que de 1660, vous voyez.
C'est l'église à contre-réforme à Turenne.
Une église, alors vraiment de la contre-réforme. Mmh. D'ailleurs, le retable de Turenne, il est dû à un sculpteur brébiste qui s'appelait Lachaise.
Ah oui.
On cherche des renseignements sur ce Lachaise, qui vivait donc aux alentours de 1660-1689. Il doit y avoir des actes dans les... Parce que lui, évidemment, il était catholique, il n'y a pas de problème.
Hmm. Donc voilà, on a fait un peu le tour.
On a fait un petit tour. Et je peux vous dire aussi quand même qu'en Prusse, les archives du roi de Prusse, lorsqu'il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, elles ont été emmenées par les Russes en Pologne. Et elles sont restées en Pologne jusqu'à il y a 10 ans à peu près. À ce moment-là, les Allemands ont réussi à les récupérer, c'était donc après la chute du mur, et ils sont en ce moment en train de les classer. Et dans ces papiers, il y a énormément de documents qui viennent de ces familles nobles protestantes françaises qui avaient amené avec eux leurs papiers, et qui sait, peut-être aussi des registres de paroissiaux aux protestants. Mm-hmm. Encore que, justement, juste avant la révocation, le roi avait demandé à voir tous les registres protestants, à les voir. C'est-à-dire qu'ils les avaient fait récupérer par les intendants. Et bien entendu, ce que les intendants ont fait, c'est les brûler. Alors si, à Argentin, ils ont dû être malins.
Ils ont, gardé,
ils ont dû le garder sans donner à l'intendant.
Ils ont gardé un registre.
Ben voilà, mais celui-là, ils l'ont gardé.
Oui.
Probablement dans une famille qui était restée protestante.
Oui.
Parce que ce n'était pas la mairie qui l'était. Voilà. Et il est possible que dans ces archives actuellement en classement, on retrouve des renseignements intéressants sur les protestants de la Vicomté. Voilà. Merci.